Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 20 juin 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. En Ukraine, le problème, c'est l'OTAN, déclaration du leader de la révolution islamique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, les échanges entre l'Iran et le Kazakhstan augmentent de 29%. Pour parler de Vienne, le train de la diplomatie n'a pas déraillé. Nous sommes prêts pour un bon accord durable et efficace. Déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh. Et puis, la sécurité de la région ne nécessite pas la présence d'invités non invités. Déclaration ce lundi du commandant de la marine iranienne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les échanges entre l'Iran et le Kazakhstan augmentent, je vous le disais, de 29%. Le porte-parole de l'administration des douanes de la République islamique d'Iran a annoncé une croissance de 29% des échanges entre l'Iran et le Kazakhstan. Selon Ruhollah Latifi, porte-parole des douanes iraniennes, l'année dernière, dans le calendrier iranien, environ 729 000 tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 265 millions de dollars ont été échangées entre l'Iran et le Kazakhstan, ce qui montre une croissance de 71% en poids et 29% en valeur par rapport à l'année précédente. Latifi a indiqué que les produits agricoles, de l'élevage et alimentaire, les matériaux de construction, les appareils électroménagers, les produits pétroliers, l'électronique, les machines industrielles, les sacs, les chaussures et les vêtements, les minéraux et les équipements agricoles ont été les exportations de l'Iran vers le Kazakhstan l'année dernière. Alors que le président du Kazakhstan était en visite à Téhéran, un train avec 42 wagons contenant de soufre en provenance du Kazakhstan est entré en Iran par le Turkménistan et la frontière d'Incheborun. Il se poursuivra vers la Turquie après avoir traversé la frontière de Razi dans la province de l'Azerbaïdjan occidental de l'Iran. Pour parler de Vienne, le train de la diplomatie n'a pas déraillé. Nous sommes prêts pour un bon accord durable et efficace. Déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a déclaré que l'Iran se dirige toujours vers la diplomatie et que le train de la diplomatie n'a pas déraillé. Avant d'ajouter, la partie américaine doit reprendre le chemin de la signature de l'accord au plus vite. Nous sommes prêts pour un bon accord durable et efficace, a-t-il insisté. S'exprimant à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire, le diplomate iranien a poursuivi « La politique américaine de deux poids deux mesures est claire pour tout le monde. Et nous ne croyons pas les déclarations américaines selon lesquelles ils veulent réparer l'erreur de Trump. Mais ces comportements ne sont que les mêmes politiques échouées du Trump. On ne sait pas qu'il faut accepter les paroles ou les comportements », a déploré Khatibzadeh en réponse à une question ou pour parler de Vienne. La sécurité de la région ne nécessite pas la présence d'invités non invités, déclaration du commandant de la marine iranienne. notant que la marine iranienne a été en mesure d'assurer la sécurité des frontières maritimes avec autorité. Le commandant de la marine iranienne, l'amiral Shahram Irani, a déclaré « La sécurité de la région ne nécessite pas la présence d'invités non invités ». Concernant la dernière situation des frontières maritimes de notre pays, l'amiral Shahram Irani a poursuivi « La marine iranienne a une présence permanente dans les profondeurs de la mer. Elle a donc été en mesure d'assurer la sécurité à grande distance à la limite extérieure du pays. » En réponse à la question « L'ennemi a-t-il pu atteindre ses objectifs dans les eaux du Golfe Persique ?», il a souligné « Non, non seulement l'ennemi n'a pas réussi à atteindre ses objectifs sur nos frontières territoriales, mais il s'est également retiré de ses objectifs de telle manière qu'il n'a aujourd'hui aucune présence sérieuse dans la région et n'a rien à dire. » Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. En Ukraine, le problème, c'est l'OTAN, déclaration du leader de la révolution islamique. Le président du Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, en visite à Téhéran, a rencontré dimanche 19 juin le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Au cours de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a déclaré que l'Occident se servait de la question de l'Ukraine pour ouvrir la voie à une nouvelle expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. L'honorable Ayatollah Khamenei a ajouté « Dans le cas de l'Ukraine, le plus gros problème est que l'Occident entend étendre l'OTAN vers l'Est et ne veut pas perdre l'OTAN pour approfondir davantage son influence partout où elle est capable de le faire. » Le leader de la révolution islamique a souligné « Diverses questions doivent être minutieusement surveillées et nous devons être prudents, car les Américains et l'Occident, en général, cherchent toujours à étendre leur mainmise et leur influence dans différentes régions, y compris en Asie de l'Est et de l'Ouest, au détriment de l'indépendance et de la souveraineté des pays de cette région. » L'Ayatollah Khamenei a également souligné les liens historiques et culturels profonds entre la République islamique d'Iran et le Kazakhstan, soulignant la nécessité d'élargir davantage la coopération entre Téhéran et Nur-Sultan, en particulier en ce qui concerne la coopération régionale. Le leader de la révolution a également appelé à plus de coordination entre les deux pays quant aux questions politiques et économiques, affirmant que cela serait nécessaire pour donner un élan au développement des relations entre le Kazakhstan et la République islamique d'Iran. Soulignant la nécessité d'activer les commissions mixtes économiques entre le Kazakhstan et la République islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que Téhéran et Nur-Sultan doivent intensifier leurs efforts pour le suivi et la mise en œuvre des accords bilatéraux. Plus loin dans ses propos, le leader a évoqué l'un des grands scientifiques de l'Iran médiéval, Al-Farabi, né en actuel Kazakhstan, avant de souligner « Al-Farabi était un grand philosophe et savant musulman originaire du Kazakhstan. Ses œuvres font l'objet d'études depuis 1000 ans. Sa personnalité et son œuvre peuvent donc devenir la base d'une vaste coopération culturelle et scientifique entre nos deux pays. » Le leader a ensuite évoqué la perspective des liens eurasiatiques de l'Iran, alors même que toute la semaine, Téhéran a été hôte des présidents, des premiers ministres ainsi que des ministres de plusieurs pays centra-asiatiques. L'Iran s'ancre-t-il définitivement à l'Est ? C'est le moins qu'on puisse dire. Pour sa part, le président kazakh, Kassym Jomart Tokayev, a également déclaré avoir eu de très bons entretiens avec son homologue iranien, Ebrahim Raisi, plus tôt dans la journée, avant sa rencontre avec le leader de la révolution islamique. Le président Tokayev a ajouté que les deux parties ont signé de nouveaux accords de coopération, ce qui contribuera à développer davantage les relations entre les deux pays. Le président kazakh est arrivé ce dimanche matin, 19 juin, à Téhéran, à la tête d'une délégation de haut rang. Il a été reçu par un accueil officiel chaleureux du président Raisi au complexe historique et culturel de Saadabad, à Téhéran. Kassym Jomart Tokayev a salué les accords et a ajouté que les deux parties peuvent contribuer à élargir davantage les relations bilatérales grâce à ces pactes de coopération. S'exprimant toujours à l'occasion de sa rencontre avec le président kazakh, Ebrahim Raisi a déclaré que la présence étrangère n'apporterait point la sécurité dans la région de l'Asie occidentale. Le chef du gouvernement iranien a souligné à cette occasion que les pays de la région sont tout à fait capables de résoudre leurs problèmes par leur propre potentiel. Raisi a fait ses remarques à l'occasion d'une conférence de presse aux côtés de son homologue kazakh, ce dimanche à Téhéran. S'exprimant devant les journalistes, M. Raisi a souligné que l'Iran et le Kazakhstan avaient des points de vue similaires sur les questions mondiales et régionales, y compris la situation en Afghanistan et la nécessité d'y former un gouvernement inclusif. Nous sommes d'accord que la présence étrangère dans la région ne créera jamais la sécurité. Une telle intervention est la source même de nombreux problèmes, a prévenu le président de la République islamique. Nous pensons également que les responsables régionaux sont capables de résoudre les problèmes régionaux et que les crises peuvent être dénouées par les pays de la région eux-mêmes, a-t-il insisté. Ebrahim Raisi a noté que ses entretiens avec son homologue kazakh plus tôt dans la journée ont ouvert la voie au renforcement de la coopération bilatérale, affirmant que les deux pays sont déterminés à étendre leurs relations au niveau bilatéral et régional. Il a ajouté que Téhéran et Nur-Sultan ont également de riches potentiels pour promouvoir leur coopération au sein d'organisations régionales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et l'Union eurasienne. Pour la République islamique d'Iran, la coopération avec les voisins de la mer Caspienne est une priorité. Nous cherchons à accroître à cet effet une coopération tous azimuts, a encore souligné le chef de l'exécutif iranien. Outre la coopération régionale, a-t-il poursuivi, l'Iran et le Kazakhstan sont déterminés à prendre des mesures pour améliorer leurs relations au sein des organisations internationales. Pour sa part, le président kazakh a déclaré que son pays avait réussi à renforcer la coopération avec l'Iran dans divers domaines, dont notamment le secteur culturel et les questions régionales. Les deux pays souhaitent accélérer le transit des marchandises, a réaffirmé Tokayev, ajoutant que les corridors de transport est-ouest et sud-nord jouaient un rôle de premier plan à cet égard. L'Iran et le Kazakhstan signent 9 documents de coopération. Les délégations iraniennes et kazakhes ont signé dimanche 9 documents de coopération et protocoles d'accord pour étendre les relations dans divers domaines en présence de deux présidents. Sur la base de ces documents, les deux pays améliorent leur coopération dans divers domaines, à savoir le transport de transit transfrontalier, les échanges scientifiques et culturels, l'énergie, l'agriculture, la politique, le commerce et l'économie. Le Kazakhstan, un important producteur de pétrole et d'uranium, fait partie du bloc intergouvernemental de 8 membres institué en 2001 par la Chine, mieux connu sous le nom de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui réunit la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Au quatrième mois du conflit en Ukraine, la guerre dans ce pays ne connaît aucun répit. La Russie a concentré sa puissance de feu à l'est du pays au cours des dernières semaines, essayant de prendre le contrôle du Donbass, la ville stratégique de Severodonetsk, qui est désormais l'épicentre des combats les plus féroces dans l'est de l'Ukraine. Dans ce contexte, les dirigeants des pays occidentaux ont réitéré leur soutien militaire et politique à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a approuvé une nouvelle aide militaire d'un montant d'$1 milliard. Au total, 33 milliards de dollars d'aide militaire ont été approuvés par les États-Unis. Et pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, les dirigeants de trois pays européens, à savoir la France, l'Allemagne et l'Italie, se sont rendus jeudi à Kiev pour soutenir sous toute forme, en effet, l'Ukraine, mais aussi soutenir l'adhésion, la prochaine adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les tout derniers développements militaires et politiques concernant l'Ukraine. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Les déboires US en Ukraine se poursuivent pour le grand bonheur de l'armée russe et de ses sympathisants, y compris ceux au Moyen-Orient qui combattent les Yankees et font échec au plan US. En septembre dernier, les Yankees ont fait de la TASC 59 une force d'intervention de drones, ce dont on n'a plus rien entendu depuis. Mais des drones Switchblade US activés en Ukraine contre la Russie. Des armes russes qualifiées par Moscou d'uniques ont rendu les drones kamikazes américains complètement inefficaces. Face aux armes uniques russes, l'efficacité de l'utilisation des drones américains kamikazes Switchblade est désormais inférieure à 20%. C'est environ 4 fois moins que prévu. Ceci a été réalisé grâce à l'utilisation d'armes russes uniques qu'aucun autre pays au monde ne possède, peut-on lire dans un article paru le 16 juin sur le site avia.pro. Aujourd'hui, la Russie est le seul pays au monde à disposer de systèmes de guerre électronique à longue portée capable de supprimer électroniquement les systèmes ennemis dans une large gamme. Les pertes en armes occidentales en Ukraine, que ce soit les drones américains ou turcs, sont notamment dues au recours des forces armées russes à la guerre électronique, grâce à laquelle la gloire des drones turcs Bayraktar et ceux de fabrication US s'est désormais estompée. Par ailleurs, deux Américains, Alexandre Dryuk, 39 ans, et l'ancien marine américain Andy Yun, 27 ans, auraient été capturés dans la région de Kharkov en tant que des mercenaires arrivés sur le territoire de l'Ukraine pour participer aux hostilités contre la Russie. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président du conseil italien Mario Draghi sont arrivés jeudi en Ukraine, une première pour les trois dirigeants européens depuis le début de l'opération militaire russe. Macron a déclaré que la France va continuer à soutenir l'Ukraine dans la durée et sous toutes ses formes face à la Russie. Selon le vice-premier ministre russe, l'Europe a payé entre 350 et 400 milliards d'euros pour les ressources énergétiques en 2021 et cette année, elle paiera 400 milliards d'euros de plus pour cette décision d'imposer des sanctions sur le pétrole et les produits pétroliers russes.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse, avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, et depuis Bruxelles, avec Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe, c'est toujours un plaisir. Et bonjour également, parce que c'est un plaisir partagé de partager le plateau avec le professeur Dorpillier.
Monsieur Michel, la guerre en Ukraine est entrée déjà dans son quatrième mois. Alors, 4 mois après le début du conflit en Ukraine, est-ce que vous constatez actuellement un signe d'enlisement de ce conflit?
Écoutez, ce qui est en train de se passer, c'est que la propagande de guerre de l'OTAN et des États-Unis, elle est en train de se heurter au principe de réalité de la Russie. Les dirigeants européens sont allés à Kiev faire un show Atlantis pour encourager l'Ukraine dans sa course à la ville, c'est-à-dire qu'on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Mais en même temps, au moment où les dirigeants européens prétendent préparer de futures négociations avec la Russie, le dirigeant russe du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, qui est un ancien libéral de mieux, anti-américain, a manifesté tout le mépris de Moscou pour les dirigeants de l'Union européenne. Il a dit que c'était le mangeur de grenouilles, le mangeur de saucisses et l'amateur de spaghettis, indiquant que Moscou considère leur démarche comme futile. Mais en même temps, au moment où Moscou est en train de l'emporter militairement, après la bataille de Mariupol, la mer d'Azov est devenue un lac russe. La mer Noire est un lac russe. Il n'y a plus que Odessa qui n'est pas occupée, mais qui est sous blocus. Et de nouvelles régions après Donetsk et Lugansk sont en train d'être libérées. Ils se préparent à organiser des référendums, soit d'indépendance, soit de retour à la Fédération de Russie. Il s'agit de Kherson, de Zaporizhzhia, mais également de Kharkov. Kharkov, dont on nous fait croire que la ville aurait été libérée, disent les pro-ukrainiens, alors qu'en réalité, autour de celle-ci, elle est encerclée par une administration pro-russe. Mais le deuxième grand événement de cette semaine, c'était l'ouverture à Saint-Pétersbourg du Forum économique, qui est l'équivalent russe de Davos. On nous a dit sur les plateaux de télévision français l'air de dire que ça se passait sans occidentaux. C'est faux, puisque des firmes ouest-européennes et canadiennes sont présentes, mais surtout BFM TV, qui est le média français en pointe dans la russophobie, commentait l'événement, le discours de Poutine hier. Et il était obligé de reconnaître avec dépit que ce n'était pas la Russie, mais les Occidentaux qui étaient isolés. En effet, 82% de la population mondiale était présente au forum de Saint-Pétersbourg. Toutes les puissances asiatiques, la Chine, l'Indonésie, etc., les Africains, mais surtout d'anciens alliés de l'Occident. L'invité d'honneur cette année, c'est l'Égypte, ce n'est pas un hasard, mais évidemment de pays comme l'Inde, qui jusque-là était l'allié des États-Unis dans l'océan Indien. Poutine a tenu un grand discours où il a expliqué l'échec, ce qui est plus grave que la défaite militaire, l'échec occidental de la guerre économique. Il a expliqué que les sanctions étaient une balle dans la tête tirée par eux-mêmes, par les Européens. Voilà ce qui est en train de se déterminer. On nous a abreuvé d'une propagande de guerre. On nous a fait croire que la Russie perdait la guerre, que l'Ukraine, 26e puissance mondiale, pouvait l'emporter. Aujourd'hui, comme je le répète, c'est le principe de réalité qui s'impose. Au moment où les dirigeants, ce sera ma chute, de l'Union européenne viennent défier la Russie à Kiev, eh bien, on a des sondages menés par les instituts de sondage américains. L'opinion publique européenne est en train d'abandonner l'Ukraine. Confrontée à une grave crise économique, les Européens souhaitent qu'on fasse la paix avec la Russie. Donc Macron, Draxi et le chancelier allemand, ils sont en train de mener une mission suicide en porte-à-porte contre l'opinion publique.
Merci infiniment, M. Michel, pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre Toulouse, M. le professeur Pierre Dorthillier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, M. Codamandé. Bonjour à vos auditeurs et à notre ami M. Michel.
M. Michel, alors, l'a rappelé à juste titre, M. le professeur, La Russie est en train de l'emporter militairement dans la guerre de l'Ukraine. Et pourtant, alors, les pays occidentaux poursuivent leur propagande de guerre, une propagande de guerre qui s'est manifestée ces derniers temps. Alors, d'une part, par cette approbation d'une nouvelle aide militaire de la part des États-Unis, d'autre part, par la visite, pour la première fois depuis le conflit en Ukraine, des trois dirigeants occidentaux européens, en effet, à Kiev. Alors, si l'Ukraine est en train de perdre militairement la guerre, à quoi sert cette propagande de guerre des pays occidentaux, monsieur le professeur?
Elle sert, à mon avis, à masquer une réalité qui est désagréable, je dirais, pour la puissance américaine en particulier. C'est que l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle l'Europe orientale, donc, est hostile à, vous savez, au communisme, parce qu'elle a été occupée par l'ancienne Union soviétique, et il n'est aucunement question pour ces pays, bien sûr, de ne pas, disons, je ne dis pas s'allier, mais disons résister à une nouvelle guerre froide. Non, ça c'est un fait. Alors, les Occidentaux, c'est-à-dire j'entends les Américains, je crois que le président Macron a eu cette idée, pouvait distinguer entre une certaine résistance des pays de l'Est européen, Pays-Bas, etc., la Pologne, la Roumanie, enfin, tous ceux qui ont été occupés, d'une part, faire une distinction entre cela et, disons, cette entreprise de l'OTAN, dans laquelle les Américains veulent de loin, disons, manipuler, bien sûr, ce qu'ils appellent leurs alliés, bien sûr, qui ne sont pas leurs alliés, qui sont leurs instruments. Alors ce jeu-là est un jeu qui va, à notre avis, aggraver la situation. Car jamais les pays de l'Est européen ne resteront inactifs et, à mon avis, changeront d'alliance, non pas iront vers la Russie, mais demanderont une certaine protection allemande. Et ça, je crois que c'est le jeu de Olaf Scholz. Olaf Scholz, je crois que l'Allemagne a un jeu particulier, à la fois économique, un jeu qui n'est pas une rupture avec la Russie, non, mais un manque de confiance, à mon avis, dans les capacités américaines. Les Américains, voyez-vous, voient ça de loin. Les Européens, nous sommes prêts. Il ne faut pas oublier que les succès russes pendant la Seconde Guerre mondiale ont été obtenus aussi avec l'appui anglo-américain. Vous voyez, ça, M. Poutine le sait, et toute l'équipe autour de lui, que ce soit Medvedev, j'ai, comme M. Michel, j'ai observé aussi cet homme que je trouve très typique de sa génération, a été très méprisant envers les dirigeants ukrainiens et surtout les occidentaux. Mais il y a de quoi, parce que nous, je dirais qu'il y a là un manque de prévision, un manque de connaissance de la réalité européenne qui fait que nous sommes condamnés, c'est un homme d'État français, je crois que c'est Henri Guénaud qui la vient de dire, nous sommes condamnés à aller comme un somnambule jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. À mon avis, c'est ce qui est recherché par certains milieux, voyez-vous, des milieux financiers, c'est-à-dire provoquer un embrasement général pour pouvoir dominer une population affaiblie. Est-ce que la Russie est capable de maîtriser ce mouvement? Nous l'espérons. Est-ce que la Chine a plus de capacité que la Russie? Je me permets de dire oui, car la Chine dispose davantage de capitaux, voyez-vous, et certainement peut peser même sur l'économie américaine. Je ne peux pas entrevoir d'autres choses, mais la réalité européenne est vraiment, très grave. Et je trouve que, mis à part le chancelier Scholz, je pense que nos hommes d'État en France, par exemple, ou en Italie, ne font pas le poids. Ils ne comprennent pas C'est une génération, disons, qui n'a pas connu la guerre. Et, ils en traitent à la légère, voyez-vous. Ils traitent au jour le jour. Quant à la défaite de l'Ukraine, bien sûr, elle est inévitable. Mais bien sûr, la distinction, à mon avis, je terminerai là-dessus, entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, il fallait le voir. L'Ukraine est plus occidentalisée, a été un peu sous l'Empire, influencée par l'Empire austro-hongrois. Ce n'est pas la même population. Bien, on aurait dû voir ça, à mon avis, avec sagesse. Or, on l'a vu avec. On s'est précipité dans des sanctions qui n'ont pas de sens, qui se retournent contre nous, M. Michel l'a très bien dit, et ceci en aggravant la crise. Pourrait justement favoriser ce fameux communisme dont on se dit l'adversaire, mais qu'en réalité on prépare, comme on prépare un gâteau, j'allais dire à la table du diable. Enfin, je m'excuse de la formulation, c'est un peu mon pessimisme naturel qui le veut, mais aussi une connaissance des pays d'Europe de l'Est. Voyez.
Merci, merci infiniment. Monsieur Michel, donc l'échec économique des pays occidentaux est une réalité, vous l'avez souligné. La guerre, la défaite de l'Ukraine est inévitable, l'a fait remarquer M. le professeur Dortiguier. Ceci étant dit, avec cette guerre, cette rhétorique belliciste des pays occidentaux, avec les sanctions qui se retournent en effet contre les pays européens notamment, à quel scénario il faudrait s'attendre, M. Michel?
Écoutez, le problème, c'est que dans tout cela, les dirigeants de l'Europe, de Bruxelles, ce sont les idiots de l'impérialisme américain, comme vous avez dit. C'est la voix de son maître. Quand il parle, en fait, c'est Washington qui parle. Et Washington a décidé que la guerre en Ukraine devait être longue et sanglante. Le but de Washington, c'est de fracturer les économies européennes, qui est le grand rival économique. C'est la guerre économique qui se dirige contre Bruxelles et pas contre Moscou. Mais deuxièmement, c'est de renforcer son emprise sur l'OTAN en faisant peur avec la Russie aux Européens. On constate aujourd'hui que des pays comme la Suède et la Finlande s'apprêtent à rejoindre l'OTAN. La Suisse est quasiment intégrée à l'OTAN, renonçant à sa neutralité, et on ne parle plus aujourd'hui de qualité de défense européenne, etc. Les États-Unis excitent ce qu'ils appellent la jeune Europe, c'est-à-dire la Pologne, les Pays-Bas, la Hongrie, la Roumanie, face à la vieille Europe. Il y a, par exemple, un ancien premier ministre polonais qui a proposé que l'on donne des armes nucléaires, vous m'entendez bien, à l'Ukraine. Les Russes ont dit que si ça arrivait, l'Europe cesserait immédiatement d'exister. Ce sont les buts de guerre des Américains. Et finalement, c'est l'oubli par l'Europe de ses positions d'indépendance telles que le général de Gaulle les développe. Il y a eu cette semaine un colloque qui a été organisé par l'ambassade de France à Kiev, dans lequel on a invité le petit-fils du général de Gaulle. Celui-ci, dans un silence glacial, à la grande surprise, il a repris le discours de son père. Il a dit que la France était devenue l'esclave, le domestique des États-Unis. Il a dit que l'Europe menait une politique suicidaire, parce que la véritable politique européenne, c'était l'entente avec l'allié traditionnel qui était la Russie. Tout cela, hélas, est triste. Et les Américains, malheureusement, si Poutine est en train d'arriver à ses buts de guerre, c'est-à-dire qu'on va reconstituer ce qu'on appelle la Novorossiya, c'est-à-dire cette part de l'Empire russe qui appartenait à la Russie avant 1917 et qui avait été constituée et libérée sous Catherine la Grande. Depuis, le commandement d'État et Kherson ont été fondés par elle. Mais non seulement Poutine va réussir à ses buts de guerre, mais malheureusement les États-Unis. Dans ce jeu pervers à trois, malheureusement, les grands perdants de la guerre, avant l'Ukraine elle-même, ce sont les Européens. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Quand on voit l'arrogance de Macron, la bêtise de Draxi, la bêtise du chancelier allemand, et le bellicisme des pays de Rivera qui constituait l'ancien pacte de Varsovie, on était carré. Mais il faut savoir que derrière tout cela, il y a des agendas cachés. La presse anglo-saxonne accuse Macron d'avoir un agenda caché au moment où il a une posture pro-ukrainienne de s'apprêter à négocier la Russie, de trahir l'Ukraine. On annonce déjà les anglo-saxons, la presse américaine, qu'il va falloir abandonner les territoires à la Russie. Mais il y a trois pays qui ont un agenda caché, c'est la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Vous devez savoir que ces trois pays ont des minorités importantes sur le territoire ukrainien, des minorités qui sont bafouées depuis le coup d'État orangiste de 2014. Je vais vous donner un exemple. Il y a une région qui est roumanophone en Ukraine. Il y avait 400 écoles en roumaine en 2014. Il y en a encore deux ouvertes aujourd'hui. Ces trois pays, en excitant à la guerre, ils espèrent que l'Ukraine va disparaître en tant qu'État et ils s'apprêtent à reprendre le contrôle de leur portion de territoire. Les Polonais ont déjà demandé à l'Ukraine que leur armée et leur police pour exercer leur juridiction sur la région de l'Ukraine, qui était polonaise jusqu'en 1918. Voilà tout ce qui est en train de se passer. On est donc dans un jeu pervers à trois, agenda américain, agenda russe, agenda européen, et pas dans une confrontation à deux, mais on est aussi dans un jeu pervers avec une série d'agendas cachés, celui de Macron, celui de Bucarest, celui
merci,
de Budapest, celui évidemment de la capitale polonaise.
Merci infiniment et tout. Dernière question à Monsieur le professeur d'Ortiguière. Monsieur le professeur, quelles seront les répercussions de ce jeu pervers des pays occidentaux à leur tête, bien entendu les États-Unis, sur l'avenir de la guerre en Ukraine, mais aussi sur la situation politique et économique en Europe?
Mais ils sont naturellement désastreux. C'est-à-dire que nous allons connaître un abaissement de niveau de vie et surtout une instabilité, je parle enfin des pays français et latins, une instabilité continuelle, disons. C'est malheureux parce que, ce grand projet dont vous avez fait mention, le projet de Gaulle, vous savez, d'une Europe européenne, va disparaître. Voilà. Et que nous n'aurons plus qu'une influence américaine d'un côté, russe de l'autre, si vous préférez. Et l'Europe sera, disons, un lieu de dispute et non pas du tout un des moteurs de la réflexion générale, un des moteurs, disons, de la politique mondiale. C'est grave parce que cela aura des conséquences sur beaucoup de terrains. Et naturellement, ce sont les années à venir qui vont le montrer de façon fulgurante. Mais en tout cas, nous serons pendant très longtemps, c'est ce que je peux dire au minimum, sous la menace d'un affrontement général. C'est ce qui est voulu par des forces diaboliques, et je crois dire qu'il faut en tenir compte. La politique est plus élevée que les choses matérielles, elle touche aussi à des problèmes, disons, de caractère supérieur, et entre le bien et le mal.
Monsieur le professeur, outre la perte d'indépendance et de souveraineté des pays européens, il paraît que cette soumission des pays occidentaux vis-à-vis des États-Unis risque malheureusement aussi de toucher de plein fouet le quotidien des citoyens européens.
Naturellement. Et il faut remarquer d'ailleurs, je vous prends au mot, que les États-Unis ne se sont pas imposés pendant la Première Guerre mondiale. On est allé les chercher avec le maréchal Foch, etc. Tellement on avait de haine contre l'Allemagne. Bon, on paye notre pusillanimité, si vous voulez. Et je crois que la génération qui vient, cette génération, disons, la jeune génération chez nous, n'a pas connu la misère. Alors que nous l'avons connue, pas la grande misère, mais quand même une difficulté de vie. L'hyperconsommation a fait perdre, le don de la réflexion, de la prévision. Et je crois que, cet abaissement de la vie va avoir des répercussions sur le plan social. Et je crains même que la position de M. Macron ne soit affectée profondément, qu'il ne puisse même continuer son mandat. Et à ce moment-là, nous aurons affaire à une, disons le mot, à des troubles civils perpétuels. Et ceci, Dieu nous en garde, mais je crois que rationnellement, on ne peut qu'en tenir compte.
Merci, merci. Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Sohrab Sepehri, au jardin des compagnons de voyage. Le peintre de la poésie persane contemporaine, Sohrab Sepehri, naquit en 1929 à Kashan, la ville qu'il affectionnait surtout pour son désert. Celui-ci évoque pour le poète la solitude, l'immensité et la liberté, des thèmes qui informent l'œuvre sepehrienne, par là même, et suggère à son lecteur imaginaire d'être immense, solitaire, modeste et solide. Lui-même, il vécut en solitaire toute sa vie. Reconnu comme peintre avant d'être élevé au premier rang de la poésie moderne, Sohrab publie son premier recueil, « La mort de la couleur » en 1962. Viennent ensuite « La vie des sommeils »,« Les décombres du soleil » et « L'orient de la douleur ». Ces derniers se font l'écho de la poésie nimaïenne. C'est dans « Les pas de l'eau » Le voyageur est surtout l'espace vert qu'on entend les pas d'une nouvelle poésie, pure et transparente, laquelle est à la recherche des origines en empruntant la voie de la simplicité. Intimité et clarté y prennent donc une place prépondérante. Sohrab est effectivement le poète de l'eau et de la lumière. De ce point de vue, l'eau constitue dans son œuvre un purificateur qui rend neuf les regards. L'eau est la clarté. Elle va à l'encontre des complexités. Ce regard paisible qu'il porte sur le monde lui attira certes de sévères critiques de la part des intellectuels de l'époque qui exigeaient de lui de combattre avec eux les misères sociales. Cependant, le poète reste à l'écart des courants, des idées politiques, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il restait en dehors de son temps. Au contraire, sa poésie, dans son ensemble, est une réaction contre la violence des temps modernes. Dans cette optique, il offre place dans son œuvre à tout ce qui aura su adoucir notre monde. L'image et le mot s'y entrelacent afin de donner naissance à une phrase qui coulerait comme de l'eau, et dont la transparence ne signifie en rien qu'elle ne soit profonde. Le mysticisme de la poésie sepehrienne prend son origine dans cette même simplicité, voire la pureté qu'on trouve dans son éloge de la lumière, la vérité et l'amour. Le poète cherche effectivement par la poésie, aussi bien que par la peinture, à nous rappeler ce commencement originel où la vie n'était qu'une pluie de fêtes et de printemps, une vasque de musique. Ce mysticisme s'abreuve notamment aux cultures de l'Extrême-Orient. Sohrab effectua, entre autres, des voyages au Japon, en Inde et en Chine. La nature se trouve ainsi au cœur de son œuvre et sa poésie évoque le haïku japonais, une poésie courte, pleine de sensations et qui fait l'éloge de la nature. Celle-ci marque aussi ses toiles. La solitude et le voyage constituent d'autres thèmes de la poésie sépérienne. Le poète aspire toujours au voyage. Cela constitue le côté exotique de son œuvre. Il veut partir, répète maintes fois le poète, qui s'ennuie dans cette ville, symbole du monde que l'on s'est construit, où il n'y a personne pour éveiller les héros dormant au bois de l'amour. Sohrab concevait ainsi toute la vie comme un voyage et l'homme comme un voyageur. En lisant ses poèmes, on est atteint de cet étrange sentiment qu'un oiseau immigrant, et on entend incessamment une voix qui chuchote à nos oreilles et qui nous appelle au voyage. Des voyages rêvent de toi dans leurs ruelles. Dans des villages lointains, des oiseaux se félicitent de t'avoir rencontré. Derrière les mers, je ferai un bateau, je le jetterai sur l'eau et m'éloignerai de cette étrange terre où il ne se trouve personne pour éveiller les héros dormant au bois de l'amour. Mon bateau sera sans lumière et mon cœur d'espoir en perles. Je conduirai sans arrêt, je ne me lierai pas aux espaces bleus ni aux sirènes qui émergent de l'eau et qui, dans le reflet de la solitude des pêcheurs, déploient le charme de leur chevelure. Je conduirai sans arrêt, je chanterai sans arrêt, car il faut s'éloigner de cette ville dont l'homme manque de mythe et dont la forme n'est pas une belle grappe de raisin. Aucun miroir dans un hall n'y reflétait les joies, ni même l'eau d'un fossé ne reflétait une flamme. Il faut s'en éloigner. La nuit a fini de chanter. C'est alors au tour des fenêtres. Je chanterai sans arrêt. Je conduirai sans arrêt. Derrière les mers se trouve une ville où les fenêtres donnent sur l'intuition. Les toits s'offrent aux colombes qui fixent le jet de l'eau de l'intelligence humaine. Tout enfant de 10 ans y tient à la main une branche de connaissance. Les toits s'offrent colombes qui fixent le jet d'eau de l'intelligence humaine. Tout enfant de 10 ans y tient à la main une branche de connaissance. Les gens de la ville regardent de la même façon la cloison, la flamme et le doux sommeil. La terre y entend la musique de ton sentiment. Le vent apporte la voix de plume des oiseaux mythiques. Derrière les mers se trouve une ville, dont le soleil est aussi vaste que les yeux des matinons, où les poètes héritent de l'eau, de la raison et de la lumière. Derrière les mers se trouve une ville. Il faut faire un bateau. Le voyageur. Je m'ennuie étrangement. Rien, ni ces instants parfumés qui s'éteignent sur les branches de l'oranger, ni cette sincérité qui existe dans le silence de 2 feuilles de cette giroflée, ni rien d'autre ne me délibère du déferlement du vide qui nous entoure. Et je crois que ce chant mélodieux de la douleur ne s'arrêtera jamais. Il existe toujours la distance. Bien que la courbe de l'eau fasse un bon oreiller, pour le sommeil doux et léger du nénuphar, il existe toujours la distance. Il faut se donner à l'amour, sinon le murmure de la vie serait gâché entre 2 lettres. Et l'amour, c'est un voyage vers l'heureuse clarté de la quiétude des objets. Et l'amour, c'est la voie des distances. La voie des distances qui sont plongées dans l'obscur, non qui sont propres comme l'argent et qui noircissent en n'entendant rien. un amant est toujours solitaire. Il a la main posée dans la main fragile des secondes. Lui et les secondes se couchent sur la lumière. Lui et les secondes offrent à l'eau le meilleur livre du monde. Et ils savent très bien que nul poisson n'a jamais su dénouer les mille et un nœuds de la rivière. À chaque minuit, sur des bateaux de l'Ishraq, ils vont sur les eaux de la guidance. Ils accompagnent jusqu'à la révélation de l'étrange. Je suis encore en voyage. Je m'imagine que sur les eaux du monde se trouve un bateau que je conduis depuis des milliers d'années, tout en fredonnant le vivant chant des marins anciens à l'oreille des interstices des saisons. Vers où me conduit le voyage? Où les traces de pas restent-elles inachevées? Où dénouera-t-on les lacets des chaussures aux doigts du loisir? Où sera l'arrivée pour y étendre le tapis et s'asseoir insouciant, écouter le son d'une assiette qu'on lave au robinet du voisinage? Il faut partir. J'entends la voix du vent. Il faut partir. Et moi, je suis un voyageur, au vent de toujours. Emportez-moi vers l'étendue où se forment les feuilles. Emportez-moi vers l'enfance salée des eaux. Et alors que le corps du raisin mûrit, remplissez mes chaussures du bel ondoiement de la modestie. Aussi haut que s'envolent les récurrentes colombes, élevez mes instants dans le ciel blanc de l'instinct et transformez l'accident de ma présence près de l'arbre en une pure relation perdue. Et dans la respiration de la solitude, fermez les petites fenêtres de mon intelligence. Envoyez-moi vers le cervelant de ce jour. Emportez-moi vers la quiétude des dimensions de la vie. Montrez-moi la présence de l'agréable néant.